Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage.
Hugo Lanoé.
Bonjour à toutes et à tous. Avec la consommation galopante de nouvelles technologies au quotidien, combinée à l'obsolescence programmée, les déchets électroniques sont en plein boom. Dans les pays développés, le recyclage reste un procédé coûteux. L'exportation vers le Ghana est pour certains une solution à bas coût, pour d'autres, un trafic juteux. La Convention de Bâle interdit pourtant, depuis 1989, d'exporter ces déchets vers des pays tiers. Mais au Ghana, ce sont en moyenne 40 000 tonnes de déchets électroniques qui arrivent illégalement chaque année. Ces télévisions obsolètes ou tablettes défectueuses finissent leur vie en banlieue d'Accra. Agbo Blochi, avec son ambiance post-apocalyptique, est la plus vaste décharge de déchets électroniques au monde. Selon l'ONG écologiste Blacksmith Institute, Agbo Blochi est la zone la plus polluée au monde devant Tchernobyl. Ce recyclage informel fait vivre des milliers de chiffonniers modernes, mais les tue à petit feu. Ghana, sous les déchets électroniques, une catastrophe sanitaire méconnue. C'est un grand reportage signé Justine Boulot.
Mike Annan est journaliste et militant environnementaliste. Depuis plus de 20 ans, il enquête sur Agbo Blochi, cette plaque tournante du déchet électronique qui s'étend à l'ouest d'Accra, pratiquement au cœur de la capitale ghanéenne.
Avant même d'arriver à la décharge d'Agbo Blochi, on peut déjà voir des morceaux brisés d'objets électroniques, télévisions, ordinateurs, tubes cathodiques. Il y en a partout au sol. Ça fait 20 ans que ça dure, mais ces 9 dernières années, ça a été un véritable tsunami. Les déchets électroniques viennent de presque tous les pays développés, de Suisse, Norvège, États-Unis, Pays-Bas, Allemagne. Ça vient de partout. C'est important de mentionner aussi qu'Agbo Blochi accueille l'un des principaux marchés aux légumes d'Accra. C'est l'un des moins chers. Pastèques, oignons, tomates. Mais quand les déchets électroniques sont brûlés à côté, la fumée toxique vient se déposer sur les produits qui sont vendus ici. Évidemment, c'est mauvais pour les consommateurs. Je demandais à cette vendeuse comment ça va ce matin. Elle me dit, vous voyez, je tousse déjà. Vous savez, quand il y a la fumée, on respire et on tousse.
Il y a 10 ans, Mike a assisté l'ONG Greenpeace pour une étude à grande échelle sur la contamination de l'air, des sols et de l'eau. Arsenic, mercure, cuivre, plomb, cadmium étaient présents en quantité faramineuse. Métaux lourds, mais aussi produits chimiques, phtalates, retardateurs de flamme, bromés, PCB. Depuis, aucune étude n'a été menée. Les données sont inexistantes ou obsolètes. À défaut, restent les observations, un air irrespirable et un sol mort.
Les habitants ne penseraient jamais à cultiver quoi que ce soit ici, parce que le sol est tellement contaminé en métaux lourds, rien ne pousserait ici. Mais il y a quelques années, c'était un sanctuaire pour les oiseaux. La mer est à moins d'un kilomètre. À chaque fois qu'il pleut, tous les métaux lourds, les produits chimiques sont drainés par la rivière Odao qui va les déverser en mer. Nous sommes en train de polluer nos zones de pêche et on met en danger la santé humaine. Quand je discute avec eux, les pêcheurs se plaignent car lorsqu'ils remontent leurs filets, au lieu de trouver du poisson, ils ramassent des télévisions, des ordinateurs. On retrouve énormément de composants électroniques dans la mer.
Mike s'engage sur la rive est, vers le cœur de la décharge. Des centaines d'hommes et d'enfants fourmis au milieu de batteries de voitures, de lave-linge désossé, d'écrans plats et d'ordinateurs. Difficile d'estimer combien sont ces chiffonniers des temps modernes.
Chaque jour, énormément de personnes, dont beaucoup d'enfants, parfois même à partir de 5 ans, viennent à la décharge d'Agbogbloshi. Ils démantèlent les objets, séparent les composants qu'ils brûlent pour ne garder que les métaux. Ils cherchent principalement du cuivre. La plupart de ces gens, surtout les plus jeunes, n'auront pas une croissance normale parce que leur corps ingère tellement de métaux lourds, de produits chimiques toxiques. Je vais aller parler à ces deux enfants. Et toi, comment tu t'appelles ?
Zachary,
d'accord. Et toi ?
Latif.
Et tu as quel âge, Zachary ? Tu parles anglais, non ? Tu ne vas pas à l'école ? Et toi, Latif, tu as quel âge ? Tu ne sais pas quel âge tu as. Et toi, Zachary ? Zachary a 10 ans. Lui, c'est Latif et Zachary est son petit frère. Ils viennent ici comme tous les enfants pour récupérer des métaux. La plupart viennent en ville en espérant trouver un emploi. Mais il n'y a rien pour eux. Alors ils finissent par travailler ici.
Mike retrouve Maxwell, l'un des salvagers qu'il pensait reparti dans sa région natale. La plupart des travailleurs viennent du nord, la région la plus pauvre du pays. Faute d'emploi, ils tentent leur chance à Accra, en vain, et la plupart finissent ici. Maxwell a 22 ans. Les mains noires, l'air apathique. La première fois qu'il a travaillé à la décharge, c'était en 2010.
Non, je n'aime pas ce que je fais. Mais je n'ai pas le choix. Personne n'est heureux de vivre comme ça, c'est dur. On fait ça pour survivre. Le salaire, ça varie. On peut gagner 10 cédis, moins le lendemain.
10 cédis, soit moins de 2 euros. Trois fois, il a essayé de reprendre ses études. Mais il fallait bien gagner sa vie et la décharge le rappelait comme une vilaine malédiction. Il espère encore pouvoir économiser suffisamment et devenir un jour comptable.
C'est toujours la même histoire. Beaucoup ont des problèmes de santé. Ils ont surtout des problèmes pulmonaires à cause de la fumée qu'ils inhalent. Ce jeune-là, en bas, il est littéralement en plein milieu de la fumée. Il va rester là toute la journée. Vous voyez, ils ne portent pas de gants. Ils vont très certainement se couper les mains. La majorité n'a pas d'assurance santé. Quand ils se blessent, j'en ai vu mettre de la terre dans la plaie. J'en ai même vu mettre de l'acide des batteries de voiture pour arrêter le sang. C'est qui tout double. Parfois, leurs blessures s'infectent. Parfois, ils survivent. Mais c'est un fait. Ils n'ont pas d'argent pour l'hôpital. Maxwell, et toi, que fais-tu quand tu te blesses ? Tu laisses comme ça ?
Oui, je laisse comme ça.
Au détour d'une petite mosquée, la ruelle se rétrécit à mesure qu'elle s'enfonce dans le quartier le plus populaire d'Accra. C'est ici qu'a ouvert il y a un an et demi le dispensaire de City of God, une association humanitaire qui dépend de l'archidiocèse d'Accra. Le père Soubache, originaire d'Inde et installé au Ghana depuis 6 ans, dirige cette clinique miniature.
C'est une toute petite structure, 7 mètres par 6. Mais l'idée est au moins d'avoir un médecin que les gens peuvent consulter et obtenir des prescriptions pour les traitements. On n'a pas beaucoup de médicaments, mais on a les traitements de base, les antalgiques, les antibiotiques, les antipaludéens. Mais ce n'est pas si cher ici. 2 cédis, 2 cédis 50, mais s'ils vont acheter ce médicament en pharmacie, ils devront payer le double.
Ce sont surtout les femmes avec leurs enfants en bas âge qui viennent consulter. Paludisme et maladies sexuellement transmissibles sont les pathologies récurrentes. Mais la communauté souffre en prime de la proximité de la décharge. Cécile Clément, une Française, est infirmière bénévole. 2 fois par semaine, elle reçoit les patients et gère les problèmes avec les moyens du bord.
Il y a beaucoup de problèmes pulmonaires. Voilà, on a beaucoup de pneumonie, pneumopathie. Il y a beaucoup de bronchites chez les enfants, des bronchiolites, de l'asthme. Et puis des problèmes de... Les gens te disent, ça me gratte. Mais c'est des dermatites, des inflammations qui sont liées, oui, en fait, aux conditions de vie. Alors, il y a des cancers ici. Souvent, c'est diagnostiqué très tard. Donc, il y a une augmentation des cancers. C'est une maladie qui est, oui, je pense, qui est exponentielle. Et donc il la découvre, mais après la traite coûte très cher. Donc, les gens partent généralement, les gens partent dans leur village, là où ils prennent des herbes. On a des compensations psychiatriques, hein, il y en a. Des délires, des personnes délirantes, je pense des psychoses. Il y en a, j'en ai vu plusieurs fois. Là, tu le vois, tu l'entends, ils sont dans leur délire, souvent mystique. Mais là, pareil, alors il y en a qui sont suivis, plus ou moins.
Pour les habitants d'Agbogbloshi, se rendre à l'hôpital n'est pas une option.
Et à l'hôpital, c'est tout un process après, hein, qui est très très compliqué. Il demande beaucoup d'argent, en fait. Il faut payer chaque étape. Mais même si c'est 2 ghanas, 5 ghanas, le médecin prescrit, pose le dossier, l'infirmière doit avertir la famille quand elle vient. Elle arrive et on lui dit, ben voilà, il a prescrit ça, il faut aller à la pharmacie, même pour les tubulures IV, même pour les cathéters, si on doit poser une perfusion. Il faut que la famille aille acheter la tubulure, le cathéter, revienne avec la tubulure et le cathéter, le produit est injecté, et là, l'infirmière le fait. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas payer, ils ne sont pas traités, ils sortent. Donc, les gens ne vont pas à l'hôpital, sauf en cas d'extrême urgence, et malheureusement, souvent, c'est trop tard.
Face à un système de santé bancal et trop cher, les quelques 40 000 habitants du quartier d'Agbogbloshi s'arrangent entre eux. On fait du diagnostic maison, on s'échange des médicaments, mais sans trop savoir. Les pathologies se développent en dehors des radars des autorités de santé.
Tu vois, un gros problème ici, c'est les pharmacies. Ce qui ne sont pas des pharmacies, il y en a une juste à côté, il y en a plein. Qui s'installent, les gens ne sont pas pharmaciens, et ils vendent des médicaments. Donc. Et les gens vont acheter, dépensent de l'argent déjà, ça leur coûte très cher. Et ils donnent des médicaments qui peuvent être dangereux, ils ont accès à tout, à des antihypertenseurs, ils font aucune analyse, c'est sur le comptoir. Quoi. Moi je trouve que c'est dangereux, c'est hallucinant. Non. Le papa, il te dit, c'est un antibiotique. Il l'a acheté à côté. Did you give him this already? So you have to finish. OK? He has malaria. OK? Tu vois, là, ils lui ont donné des comprimés. Donc, c'est très bien. C'est pour le palu. En effet, il a le palu. Tu vois, lui, il fait combien de kilos? Cassine. Il est à 24 kilos. Tu vois, ils lui ont donné un traitement qui va jusqu'à 15 kilos. Donc, c'est inefficace. Surtout le palu, c'est très, très strict. Et après, ils ont rajouté un antibiotique, le métrodinazole. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Faire du suivi, c'est hyper compliqué. Si on voulait instaurer un suivi, je ne sais pas moi, au niveau des maladies pulmonaires et tout ça, je pense que c'est compliqué de suivre les gens. On n'a pas de relevé et on n'a pas de moyen de diagnostic. On n'a pas de radio, on n'a pas de test sanguin. Donc on traite des symptômes, mais on ne va pas plus loin. Et si la dame, elle répète sa pneumonie, tu vas retraiter la pneumonie. Mais on ne va pas se dire, tiens, ça fait plusieurs fois qu'elle récidive. Il y a autre chose derrière. Donc c'est pour ça, je pense que la pollution est... Mais il n'y a aucune étude de fait, on n'a rien là-dessus.
Malgré l'ampleur de la catastrophe en cours, aucune étude n'a jamais été menée par l'État sur les conséquences sanitaires de la décharge. Même l'étude de Greenpeace, la plus étoffée à ce jour, précise ne pas être en mesure de faire le lien entre contamination et pathologie. Si les métaux lourds et produits toxiques ont un effet avéré sur le développement du système nerveux ou encore la recrudescence de maladies cardiaques, aucune donnée n'indique de quel type de cancer souffre la population ou si les maladies mentales sont directement liées à l'activité de recyclage des déchets électroniques. Le père Soubash lève les yeux au ciel, un brin ironique.
Beaucoup de gens viennent faire de belles promesses, puis on ne les revoit plus. En 6 ans, j'ai vu des ONG européennes, américaines, mais je n'ai jamais rien vu de concret. De la part du gouvernement ou toute autre institution privée, il n'y a rien.
Les travailleurs sont loin d'être les seuls à subir les effets néfastes de ce que les habitants d'Accra surnomment le Sodome et Gomorre moderne. Les chercheurs de l'université d'Accra se penchent depuis récemment sur les conséquences sanitaires de la décharge. Dans le cadre de sa thèse, Eunice Menz a mené une étude sur la contamination aux métaux lourds du lait maternel. une première.
Je me suis basée sur un échantillon de 25 femmes vivant dans les alentours de la décharge. J'ai réalisé des dépistages d'arsenic, de nickel, de plomb. On en retrouvait dans tous les échantillons. Et les quantités étaient bien supérieures aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Ces femmes vivent dans les environs. La fumée calcinale est la principale source de la contamination. Je cherchais vraiment à vérifier que l'exposition à ces fumées aurait pour conséquence la contamination aux métaux lourds du lait maternel. D'autres études ont sans doute tenté de voir si ces expositions menaient à des pathologies, mais trop peu d'études ont été réalisées. Il y a tellement à faire. C'est la plus grande décharge de déchets électroniques, alors vous imaginez.
La jeune femme a travaillé sous la direction du docteur Julius Fobil, le directeur du département de biologie de l'école de santé publique de l'université d'Accra. Son cheval de bataille démontrait les effets sur la santé de certaines activités économiques et en ligne de mire, le recyclage des déchets électroniques. En collaboration avec l'université McGill de Montréal et l'université du Michigan aux États-Unis, son département a lancé en 2017 une campagne d'études sanitaires à grande échelle en suivant au long cours 206 travailleurs d'Agbogbloshie. Le docteur Fobil ne peut qu'approuver le constat de son étudiante. Le Ghana dispose de trop peu de données.
L'industrialisation va avec l'interférence avec l'environnement, avec l'impact de notre santé.
L'industrialisation interfère avec notre environnement. Ça a un impact sur notre santé. On sait aujourd'hui qu'environ 25% des pathologies dont souffre notre population sont dues à l'environnement dans lequel nous vivons. C'est énorme. Dans ce champ de recherche, il y a encore énormément de lacunes. On essaie de combler ce vide. Si on formait plus de gens, on résoudrait bon nombre de problèmes de santé. Les méthodes de recyclage sont si rudimentaires et sont à l'origine de tant de problèmes. Tous ces effets néfastes sur la santé, des cancers, des maladies pulmonaires, bronchopneumopathies, chroniques obstructives, il y a des effets sur la grossesse, sur la santé mentale. On voit des maladies que l'on ne voyait pas il y a 20 ou 30 ans.
Ce lundi matin, son équipe de chercheurs a installé un laboratoire mobile sur un parking face à la décharge. Les étudiants et doctorants enchaînent examens médicaux et prises de sang. L'objectif est de collecter le plus de données, un travail de longue haleine. Eric Banor, médecin assistant, analyse l'activité cardiaque de chaque patient.
Mon travail, c'est de faire une électrocardiographie de chaque travailleur présent aujourd'hui. Cette machine-là analyse le cœur. Vu la nature de leur travail, les médecins veulent vérifier si leur cœur fonctionne bien. Mais de ce que je vois, la plupart des résultats sont mauvais. Certains sont à la limite, certains complètement anormaux, et une minorité seulement sont bons. Mais ce n'est pas à moi d'en déterminer la cause. Ces données seront envoyées à un spécialiste. Ces résultats seuls ne peuvent pas servir à un diagnostic.
Sous la tente, où grimpe déjà une chaleur intenable, Afua Asabea Amwabeng Outi, l'une des chercheuses, se focalise sur les risques de cancer.
Bien fait. Open your mouth. All right. So what we are doing is we are taking samples from the mouth.
Là, je prends des échantillons dans la bouche, dans le nez, puis on envoie tout au laboratoire. Ils vont se concentrer sur les cellules, surtout sur l'ADN. Le but est d'observer si le fait d'être exposé aux fumées de la décharge sans protection engendre des changements au niveau de l'ADN. On sait qu'il y a des expositions aux métaux lourds, à certains éléments chimiques comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont potentiellement cancérigènes à long terme. Là, ce n'est que la quatrième série de récoltes d'échantillons. On espère avoir les premiers résultats d'ici 6 mois, peut-être. C'est la toute première fois qu'une étude portant sur le risque de cancer est menée parmi les travailleurs de la décharge. La prochaine étape est de faire part de nos informations aux autorités de santé. On espère que des mesures seront prises. Le ministre des Finances a évoqué la volonté de construire une usine de recyclage à l'échelle nationale, de manière à gérer ces déchets dans de bonnes conditions. Donc notre travail commence à porter ses fruits. C'est un bon début.
Si développer une filière de recyclage à la fois sûre pour l'homme et respectueuse de l'environnement est une solution, elle incombe cependant un coût faramineux. En parallèle, ce sont les pays développés qui sont pointés du doigt. Les États-Unis n'ont par exemple toujours pas signé la Convention de Bâle qui interdit l'exportation de déchets électroniques. Un reportage de Justine Boulot, réalisation Pierre Chaffangeon.